Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP dans Famille Justice Enfance numéro 123 avec Stéphane depuis le Périgord pour la seconde partie d'un entretien en trois parties avec Frédéric Benahi, cadre d'un service de l'aide sociale à l'enfance et auteur de plusieurs ouvrages. Nous continuerons d'évoquer avec lui l'importance de l'intervention sociale dans la famille contemporaine et l'incidence sur les enfants, les mères et les pères de ces interventions. Mais tout d'abord, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Un article du JDD, journal du dimanche de mai 2021, incite les magistrats à classer sans suite des affaires jugées trop anciennes pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. Donc cette dépêche interministérielle, justice et intérieur, que le JDD a pu se procurer, avec les fiches qui l'accompagnent, incite en effet à la réduction du nombre d'affaires en cours dans les services d'enquête, et les procureurs doivent prendre des mesures propres à poursuivre la résorption des stocks de procédures, dit-on encore. Soit, en langage feutré, classer les affaires trop anciennes ou pour lesquelles aucun acte d'enquête a été réalisé. Voilà également la réalité des tribunaux d'aujourd'hui.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Famille contemporaine française, voici donc la pension alimentaire minimale augmentée de 50% dès ce mois de novembre. Pour rappel, la pension alimentaire est dorénavant défiscalisée et constitue donc une niche fiscale car elle n'est pas déclarée aux impôts par celui qui la reçoit et elle n'est pas déduite par celui qui l'émet. Elle passe donc de 116 à 174 euros par enfant et par mois. Dans le même temps, rien n'a été prévu pour toutes ces plaintes pour NRE, non-représentation d'enfants, qui sont déposées chaque année et qui, comme nous venons de le voir, vu qu'elles ne sont pas traitées, deviennent donc classées d'office.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Moi, j'ai par exemple été assez surpris du nombre de mises à l'abri de femmes pendant le Covid. Mises à l'abri au secret. C'est-à-dire que quand il y a l'intervention de la police, alors il faut en faire des mises à l'abri au secret.
Oui, c'est ça, c'est le problème. Il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de juge des enfants, et on sépare les parents des enfants, et on met des gens à l'abri, comme ça, sur initiative personnelle. Ouais.
Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on est toujours embêté, parce qu'on a des chiffres, effectivement, des féminicides importants, et en tête société, un peu du moindre risque, on vient et on dit... Et tout d'un coup, on fait une mise à l'abri au secret. Ça veut dire que l'enfant perd tous ses repères. Ça veut dire qu'il n'a plus le droit d'être en lien avec l'autre parent de quelque façon que ce soit.
Et qu'il y a 3 suicides de père par jour.
Oui, mais parce que aujourd'hui, vous avez encore, je vous dis des dogmes. C'est-à-dire qu'un père ne peut pas s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans.
Oui, mais ça, on peut l'entendre. Avez... Nous, dans les fondamentaux, on peut l'entendre. Mais dès que l'enfant sort, justement, après le 4 pattes, surtout à partir du moment où il marche, c'est plus difficilement écoutable.
Bah, c'est-à-dire qu'on peut entendre, effectivement, qu'il y a ce moment très particulier de la première année, mais après, il faut mettre en face quelque chose qui permette à l'autre parent de prendre sa place. On sait à quel point les linéaires d'attachement précoce sont importants. C'est-à-dire qu'en plus, ça ne se passe pas du tout de la même façon pour un père que pour une mère. C'est-à-dire que le père réalise une adoption symbolique. Il n'a pas porté l'enfant, donc il peut être très rapide. Il peut prendre quelques jours en fonction de père, parce que tout d'un coup, devenu père, bah, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais il faut qu'on soit attentif à ce que le père puisse accueillir au moins le week-end, même sur des enfants en bas âge. C'est-à-dire qu'il puisse installer un lien avec son enfant. C'est-à-dire que si on remet un enfant dans une garde alternée à 6 ans, il va vous dire « mais moi, je connais pas le monsieur ». Et il aura raison. C'est-à-dire que là, au niveau des JAF, c'est quels moyens les JAF te donnent pour s'assurer que l'enfant puisse construire une histoire des deux côtés. Et encore une fois, le problème se retourne à un moment. C'est-à-dire qu'il est renvoyé à ses femmes 13-14 ans, et vous ne savez pas vous occuper de votre enfant. C'est-à-dire qu'en plus, on demande à ses femmes, qu'à un moment, on leur a dit, il n'y a que vous qui pouvez le faire, et à 13-14 ans, quand l'enfant a des manifestations peu difficiles à gérer, on lui signifie que finalement, elle ne sait pas s'occuper de son enfant.
C'est vrai que vous êtes confronté à un panel de situations qui est très très grand. C'est vrai que nous ici, on est parti au départ des séparations conflictuelles, on s'est intéressé ensuite aux problématiques de la protection de l'enfance, mais on oublie un peu trop que la protection de l'enfance, l'ASE, ça touche énormément de situations très très vastes. C'est vraiment, il y a beaucoup beaucoup de domaines auxquels vous êtes confronté.
Ouais. Oui, mais la séparation engendre des phénomènes graves. C'est-à-dire que je vais vous prendre un exemple là très récent. Un père qui avait été très peu en contact avec sa fille, qui pour s'extraire de l'autorité maternelle demanda à revenir chez son père au JAF. Le JAF, 14 ans, 15 ans, dit « La parole de l'enfant, je ne peux pas m'opposer, elle va chez le père. » Et finalement, cet enfant a compris que c'est elle qui donnait le tempo et qui choisit. Et c'est une enfant qui a eu un parcours très compliqué, que nous, là, on essaie de récupérer tant bien que mal, qu'elle a des conduites prostitutionnelles, mais en fait, qui a utilisé le fait qu'elle puisse dire à un de ses parents, bah écoute, toi, t'es trop dur, je vais chez l'autre. Une fois qu'elle était chez l'autre, elle a dit, bah je rentre chez maman. Une fois qu'elle était chez maman, bah je rentre chez papa. On savait plus du tout où était l'enfant. On avait perdu, on s'est aperçu que cet enfant, en fait, était en train de mettre en place des conduites à risque fréquentes. Et on avait deux parents qui étaient totalement désabusés en nous disant, mais nous, on n'a fait que appliquer ce que nous a dit le JAF, quoi.
Et quand on voulait s'en occuper, on n'avait pas le droit. Ouais, bah oui.
Voilà. Et donc, il ne faut pas banaliser parce que là, effectivement, on a beaucoup de situations liées au départ à des conflits de couple et à des séparations qui, parce que traitées de façon inadaptée, nous amène des situations extrêmement dégradées au moment de l'adolescence. Ouais. C'est-à-dire au moment où l'enfant peut mettre en acte ce qu'il a vécu.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, j'avais aussi des remarques, moi, parce que vous savez, j'ai animé quelques permanences. Bon, depuis le Covid, on a arrêté, mais j'en ai fait quand même quelques-unes. J'ai vu arriver un certain nombre d'expériences, j'ai aidé des gens à monter des dossiers et autres. Et on a des histoires, je voulais vous en parler, mais vous avez à moitié répondu, mais je vais quand même évoquer le sujet pour qu'on puisse dire qu'on l'a fait, d'interventionnisme des sociaux sur, comment dirais-je, déjà avec une très très grande brutalité. Il faut se rendre compte que les choses parfois sont très brutales. Vous avez un binôme qui vient vous voir, qui passe 45 minutes avec vous, qui va dire relation fusionnelle, des gendarmes vont venir, et puis vous verrez plus vos gosses durant 3 à 4 ans. Et puis, il y a des expertises qui vont venir, et suivant qu'elles viennent du tribunal ou du privé, ce ne sont pas forcément les mêmes, et c'est un enfer. Et puis, les gens se plaignent de ne pas avoir les pièces au tribunal, les gens se plaignent que les juges des enfants n'écoutent que les sociaux et qu'il n'y a pas de contradictoire. Les gens se plaignent que parfois les dossiers ne sont pas donnés aux parents, aux juges des enfants, qu'on ne sait même pas ce qu'il y a marqué dessus. On a l'impression de face au service secret, ils ont des informations qui se gardent pour eux, qui n'échangent pas, et il y a beaucoup de souffrance qui est générée par rapport à ça. Alors, vous avez un peu répondu, hein, vous avez répondu en disant qu'il y avait une paupérisation du secteur, qu'il n'y avait pas assez de personnes qui étaient suffisamment qualifiées, qu'il y avait un manque de main-d'œuvre correctement élevé. Vous avez dit qu'il y avait un principe de précaution qui était un peu trop élevé, qu'il y avait un peu trop d'interventionnisme. C'est ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit. Mais vous, de votre position, comment est-ce qu'on pourrait arranger tout cela quand même pour qu'on s'occupe de nos enfants? C'est quand même important qu'on s'occupe de nos enfants, c'est le signe d'une société évoluée, mais qu'on ne casse pas tout et qu'on ne fasse pas n'importe quoi sur des impulsions. Comment on pourrait faire pour que ça soit mieux?
Alors déjà, pour expliquer un petit peu la crise du secteur, hein, il faut savoir qu'un éducateur ou une éducatrice va commencer à même 1300 euros par mois dans les conventions, voilà. Donc, on est souvent, en fait, on est aussi sur une...
Oui, enfin, j'ai passé le concours. On était 3000 pour 30 places. Donc, ça, si jamais ils voulaient, bon.
Oui, oui, ah ben ça, on en est bien d'accord. Il y a des leviers politiques, mais après, ça...
Il y a des choix. Des choix qui sont faits.
Oui, oui, mais c'est quelle société on souhaite. Il y a quelque chose que je travaille beaucoup pour heurter involontairement les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, vous êtes la police des familles. Et à partir de ça, on essaie de comprendre, de réfléchir, est-ce que finalement, la puissance publique ne nous demande pas d'être la police des familles et de venir comme ça. Ça donne des sujets très intéressants. D'abord, un mouvement de rejet par rapport à moi. Hein. Nous, on n'importe quoi, nous, on est des gens bien, on se donne corps et âme. Et c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les travailleurs sociaux comprennent qu'ils font effraction dans une histoire. et que ça fait partie du travail. Donc, il faut pouvoir aussi le poser. Après, là où je vous rejoins, et c'est là où le problème aussi de la suractivité des travailleurs sociaux, c'est que je fais le constat qu'actuellement, on a une dégradation forte du vocabulaire et de la posture des travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'ils se positionnent en prescripteurs, souvent quand même dans des jugements de valeur. Et je reviens là au fait de pouvoir analyser sa pratique, c'est-à-dire le comment je travaille, pourquoi je travaille de cette façon-là. Et comme le socio-éducatif n'est pas une science en tant que telle, une appropriation par les travailleurs sociaux du langage est fusionnel, que vous avez pu évoquer avant.
Ah oui, alors ça, c'est plein de trucs là-dessus. Ouais, ouais.
Oui, oui.
Il y a une tête de mort accrochée au mur, l'appartement est trop noir.
Oui, alors... Ça aussi, c'est pareil, vous voyez, c'est des choses que moi je travaille au quotidien, c'est-à-dire que moi je suis assez clair, c'est qu'on n'est pas là pour expliquer aux gens s'il y a besoin d'avoir des rideaux de telle couleur ou si les placards sont rangés ou pas rangés. Et il y a des travailleurs sociaux qui font ça, moi j'ai vu et j'ai repris, ils passent la main sur les meubles. C'est pas ça, être travailleur social.
C'est humiliant. C'est humiliant, en plus. Oui, et puis on se plaint qu'il n'y a pas d'organisme de surveillance. On ne peut pas joindre l'IGAS, par exemple, l'IJAS, on peut pas. On n'a aucun recours. Le jour où quelqu'un vient, un binôme vient chez vous et crie un truc, même s'il y a plein de trucs faux marqués dedans, comme on ne peut pas l'avoir parce qu'il est au JDE, on ne peut que le recopier, il n'y a pas d'autorité supérieure à qui on peut faire appel. On n'a aucune protection par rapport à ça.
Alors, quand même, pour vos auditeurs et peut-être les avocats qui les accompagnent, normalement, et c'est prévu comme ça, les rapports doivent être rendus un mois avant.
Oui, mais c'est jamais fait.
Il n'est jamais le cas. Sauf que ça veut dire que à chaque fois...
Il y a même des tribunaux où on ne peut pas consulter les dossiers. Clermont-Ferrand,
oui,
par exemple.
Mais ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez quand même un vice de procédure et un non-respect du droit des usagers. Et ça, c'est important aussi parce que moi, je sais à quel point c'est compliqué. Mais c'est-à-dire que le système actuel favorise... mais à tous les niveaux, hein, pas que là, mais le non-recours au droit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme d'épuisement imposé où tout devient compliqué. C'est-à-dire que pour consulter un dossier, il faut écrire au magistrat, il accepte effectivement parce qu'il n'a pas le choix, encore faut-il que le dossier soit classé, soit arrivé, et qu'effectivement, les éléments puissent être traités par un conseil, si les personnes ont un conseil. Donc moi, vraiment, j'insiste, il faut absolument qu'on puisse, plus il y aura de recours, plus la justice le remettra en place. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois trop peu d'appels sur les décisions. Alors même si les délais sont très longs, en tout cas en matière de protection de l'enfance, les délais sont quand même moins longs qu'au niveau du JAF, il n'y a pas d'appel. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas leurs droits. Et de la même façon,
ça coûte cher.
Il y a quelque chose...
Ça coûte cher. On voit ces gens débarquer comme ça, et puis après, il faut dépenser de l'argent, parce que soit on a l'aide juridictionnelle, et auquel cas, l'avocat a 450 euros, donc il s'en occupe. Soit on n'y a pas droit, et à ce compte-là, il faut tout payer, et il y a plusieurs milliers d'euros. Ça coûte super cher, on n'a pas forcément... Moi, j'ai des dossiers où les gens en sont à 30 000, 40 000, 80 000, et puis ils sont encore en procédure.
Non, mais je vous dis, hein, moi, je l'ai vécu personnellement. Je sais ce que ça coûte et je sais comment on peut provoquer un référé sur des paroles abusives. Puis on peut même pas se défendre pour parler de dénonciation calomnieuse ou choses comme ça. Après, que en tout cas au niveau du travail social, je demande aux gens avec qui je travaille, c'est de permettre la consultation. C'est-à-dire qu'une personne peut, tout ça ce sont des procédures orales, hein, c'est ça aussi qui fait que... Et avec, effectivement, ce qui est ressenti, ce qui m'en est envoyé par certains parents, c'est le fait d'être jugé à la fois par les travailleurs sociaux et d'être jugé tout de suite par le magistrat qui le reçoit. Que ce soit le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales.
Ah, c'est une brutalité. On reçoit un courrier, on est convoqué quelques jours plus tard, il y a un jugement qui arrive, et puis ensuite, vous avez une ou deux personnes qui vous parlent dans l'année, et vous ne pouvez rien répondre. C'est très, très brutal. C'est extrêmement violent comme environnement.
Oui, oui. Mais tout ce qui a trait à la protection de l'enfance, au départ, c'est un monde violent, puisque c'est des violences faites sur des enfants. Mais le problème, c'est que de façon très inconsciente, on réintroduit de la violence, nous, travailleurs sociaux, hein, dans un système qui l'est déjà. Et quand on arrive un peu à travailler avec les travailleurs sociaux cette question-là, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que vous renvoyez à l'autre? Et qu'est-ce qui vous autorise à renvoyer ces choses-là à l'autre. On a un gros travail qui est de moins en moins fait, j'en ai bien conscience, autour des postures éthiques et déontologiques des travailleurs sociaux. Le travailleur social n'est pas là pour, permettez-moi l'expression, engueuler un parent. Et ça, je le vois trop souvent. Ou pour lui parler de façon inappropriée, en se mettant tout de suite en position haute. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur mon service, j'ai demandé à ce qu'on supprime les bureaux. C'est-à-dire que les gens ne sont pas reçus avec un bureau où la personne est sur un siège de bureau très confortable, et de l'autre côté, vous avez des gens sur des chaises pliantes, vous voyez, où on met tout de suite... Non, on reçoit les gens, il y a plein de mots que j'ai changés. Notre permanence d'urgence n'est plus une permanence d'urgence, mais une permanence d'accueil. C'est-à-dire que c'est l'accueil qui prime ce soir. De toute façon, on ne peut pas imaginer travailler avec des personnes si on n'assure pas cette fonction-là au départ.
Où est-ce que vous êtes actuellement ? Vous m'avez dit, vous êtes responsable de quel service ?
Alors ça, je n'ai pas l'autorisation de ma hiérarchie.
D'accord. Est-ce que vous pouvez dire votre position, le titre, sans dire la localisation le...
Je suis adjoint à responsable d'assistance en France.
D'accord, ok.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Mais parce que, en fait, et c'est peut-être ça qui est compliqué, c'est que vous m'avez dit, j'ai pas beaucoup de travailleurs sociaux. Et là aussi, il y a une paresse. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux ne réfléchissent pas suffisamment l'environnement.
Moi, j'ai pas dit qu'ils travaillaient pas, hein. Je vous dis, j'assure, les 7 qui sont en Dordogne, ils bossent, hein. Quand il y en a un qui va en maladie, non, mais... c'est la fin du monde, hein. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire du tout.
Au niveau de l'implication, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous dis, c'est quand je dis qu'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ne travaillent pas en dehors des situations, c'est-à-dire à l'élaboration et à la conceptualisation de qu'est-ce que je suis en train de faire. Pourquoi je fais ça? C'est-à-dire de façon complètement distanciée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne travaille plus sur des situations, on travaille sur sa posture face à l'autre et sur comment je fais pour accueillir l'autre. C'est-à-dire le mettre dans des conditions qui soient suffisamment propices à ce qu'il y ait un discours puisse à minima être authentique. Et même là, que le fait que des parents nous mentent ou aménagent la réalité, c'est pas ça qui doit nous occuper. La question, c'est pourquoi à un moment un parent est amené à nous raconter des histoires. Et souvent, les travailleurs sociaux ont l'impression qu'ils leur mentent à eux. Mais ils mentent pas aux travailleurs sociaux. Ils essaient de se défendre comme ils peuvent. Ou ils essaient que la situation bascule dans leur sens. Et c'est ça, il faut qu'on sorte de cet amalgame. Et je le redis, les travailleurs sociaux ne sont pas là pour dire qui est bon, qui est mauvais. Les travailleurs sociaux sont là pour décrire quelle est la qualité du lien entre la mère, la qualité du lien entre le père, et quelles sont les interactions d'un enfant avec ses parents. On n'est pas là pour dire qui fait bien, qui fait pas bien. Et ça, c'est extrêmement important. Et je le redis, le problème en France, c'est qu'on travaille très peu sur les ressources des parents. C'est-à-dire qu'on dit très peu à « Mais monsieur, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» Et là, généralement, quand on dit « Monsieur ou madame, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» je peux vous garantir que généralement, c'est eux qui font le rapport et qui nous donnent des éléments qui sont à la fois opérationnel et dans l'intérêt de l'enfant.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Dernière petite partie avec Frédéric Benahi. Vous vouliez, si j'ai bien compris, parler des nouvelles parentalités, de nouvelles références à construire pour les acteurs du social. Bon, on a beaucoup parlé, effectivement, on commence à en voir arriver quelques-uns. J'ai eu quelques invités dernièrement qui ont dit que dans les modèles éducatifs, nous avons assez peu de recul, hein, mais on voit aussi commencer à arriver des séparations de couples homosexuels avec des enfants qui peuvent se passer mal. Moi, je dis qu'on est amené à avoir une convergence, d'ailleurs, avec ces types de familles, parce que, comme ils ont moins de droits parentaux que nous, parce qu'il y a des problèmes d'affiliation, les séparations sont encore plus brutales pour les enfants. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez été confronté à ces nouveaux types de parentalité ?
Alors, on commence effectivement à être confronté à des couples homosexuels qui se séparent, hein, comme ça peut arriver. Et effectivement, avec cette problématique que la filiation n'est établie que d'un côté.
Oui, il faut qu'il y ait, pour rappeler aux gens, il faut qu'il y ait adoption commune et autres, c'est très difficile. Et donc, lorsqu'ils vont commencer à se battre, bah, comme les autres, hein, quand un pourcentage d'entre eux vont ne pas s'entendre, hein, comme dans le reste, c'est normal, c'est statistique, et ben, il y a une rupture de lien extrêmement brutale qui s'effectue.
Oui, alors, j'ai employé un mot fort pour, il y a quelque chose de l'ordre du rapt. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une cassure nette avec le parent dont il n'y a pas de droit et avec finalement très peu de possibilités de recours. Nous, on est, en tant que travailleurs sociaux, très en difficulté avec ça, puisque, on le disait, notre travail se base sur l'autorité parentale. On va essayer de se décaler un peu en prenant les figures d'attachement. Puis un point pour lequel je voudrais revenir plus tard sur les ruptures transgénérationnelles, parce que c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et oui, là, on arrive sur des personnes qui sont, mais alors, totalement démunies, parce que dans l'impossibilité, finalement, d'activer quelques systèmes de justice que ce soit. Donc, ce qu'on voit arriver, nous, c'est finalement le parent n'ayant pas de droit, utiliser des services comme le 119, notre service de l'enfance en danger, utiliser les institutions pour finalement donner des éléments de danger avérés sur l'autre parent pour que leur situation soit enfin entendue. C'est-à-dire que, et ça pourrait faire aussi l'objet de toute une émission, c'est comment à un moment on instrumentalise la protection de l'enfance dans les conflits. Et là, actuellement, effectivement, au niveau de tout ce qui est homoparentalité, on voit arriver des gens qui nous disent « de toute façon, je n'avais pas le choix, je devais en passer par la protection de l'enfance, puisque le juge des affaires familiales ne me reconnaît pas en tant que… » Voilà. Donc il va falloir former tous les acteurs. Une fois de plus, mon objet de travail, c'est le lien. C'est-à-dire que quand un couple homosexuel se sépare avec l'enfant à 5 ans, pour moi, il a un lien établi avec ses deux parents. Donc comment effectivement préserver ce lien? Et c'est là qu'on a cette difficulté avec la question de l'autorité parentale et des personnes qui se retrouvent sans recours aucun.
On Est-ce a aussi que vous, en tant que travailleur social, vous voyez une différence entre les enfants qui viennent de couples homosexuels dans vos services avec les autres? Ou est-ce que tout se... Enfin, c'est peut-être très très tôt parce que c'est très récent, mais vous avez noté... Ça se passe bien?
A priori, comme ça, j'ai pas d'éléments tangibles qui me permettraient de dire que c'est une parentalité qui serait différente. Elle est différente parce que la société la regarde différemment. Elle n'est pas différente dans le lien qui est établi avec les enfants. Les enfants sont généralement très au clair. Voilà, ils ont ou de papa ou de maman, ils sont très au clair avec ça. Ils ont des grands-parents d'un côté, des grands-parents de l'autre. Enfin voilà, tout est assez clair pour eux. En fait, c'est surtout le regard qui leur est porté. Ça peut être le regard de l'instituteur, ça peut être le regard.
D'accord, je veux dire, ils partent pas en vrille à l'adolescence, tout va bien, quoi.
Bah, ils partent en vrille comme les autres, quoi.
D'accord, ok. Non, mais c'est ce que je vous demandais, parce qu'on a très peu de recul. Donc là, j'ai un intervenant en face de moi, donc je lui pose des questions, si vous voulez. Parce que c'est, hein. Dans l'étude de la famille contemporaine, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Hein.
Oui, non, mais honnêtement, j'ai pas d'éléments tangibles, j'ai pas vu de symptomatologie particulière.
D'accord, c'est une bonne nouvelle. D'accord.
Ouais. RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Oui, je voulais aborder un point parce que ça me semble important quand même qu'on ait ça à l'esprit. C'est que quand on coupe un enfant de son parent, en fait, on ne le coupe pas que de son parent. L'enfant est potentiellement...
On le coupe de tout son arbre, de tout l'arbre de ce côté-là. Les cousins, les cousines, les tantes, les tatas, les grands-parents, on le coupe de la moitié de son arbre, bien sûr.
On prive potentiellement, si cet enfant devient un jour parent, on le prive de grands-parents, on prive ses propres enfants, de ses grands-parents.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez tout un côté, toute la vie de cet enfant n'existera plus.
Absolument.
C'est-à-dire que quand il aura un enfant, on ira voir papy-mamie peut-être du côté maternel, mais il n'y aura pas de papy-mamie du côté paternel. Et il faut que les gens aient ça en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas un couple qui se sépare. C'est pour ça qu'à un moment, je vous parlais un peu du paradoxe de la séparation parentale. C'est-à-dire que oui, il y a une déconstruction de l'histoire parentale, mais attention, parce que l'enfant, lui, est en pleine construction de son histoire pour longtemps. Et moi, j'ai toujours en tête, ses parents, puis il y a plusieurs générations, qui nous disent, moi, j'ai pas de relais du côté, je sais pas où il est, et qui sont attristés, une fois adultes et eux-mêmes parents, de pas pouvoir offrir de grands-parents du côté.
Frédéric Benahi sur RLP, dites-moi, déjà, est-ce que vous avez un autre ouvrage en préparation? Quels sont vos projets? Avez-vous une actualité?
Alors, au niveau de l'actualité, je pense qu'effectivement, je vais prochainement quitter l'aide sociale à l'enfance et essayer d'aller sur des lieux un peu plus axés autour de la prévention réel. Oui, j'ai un ouvrage, je suis en train de travailler sur là beaucoup les phénomènes préconstitutionnels et le michetonnage, et notamment...
Le michetonnage, on va rappeler aux gens, c'est le mot utilisé par une certaine jeunesse aujourd'hui pour des comportements prostitutionnels qui se rapprochent de la traite d'ailleurs parfois.
Oui, alors là on a des choses un peu nouvelles qui se mettent en place, notamment des jeunes filles qui envoient des photos de leurs pieds, qui vendent des culottes, on a des choses vraiment... Et en fait, le fait que là pour le coup, on a une totale absence de la puissance publique, c'est-à-dire que le phénomène n'existe pas. C'est-à-dire quand même, quand on va montrer les lieux, on est dans des phénomènes de prostitution avérée ou des mineurs, ça n'existe pas. Les clubs de prévention nous disent que ça n'existe pas. Quand on leur explique que oui, ça n'existe pas sur leur quartier, parce que de toute façon, les jeunes filles sont transférées vers d'autres lieux, mais elles sont issues du quartier. Enfin voilà, il y a une espèce d'omerta là autour de tous ces fonctionnements. Et c'est vrai que je travaille sur ces questions-là actuellement. Et c'est pourquoi effectivement le corps et l'image vient se mettre en scène comme ça de façon de plus en plus précoce, hein, c'est-à-dire avec TikTok, avec des choses comme ça, et pourquoi après on arrive à des mises en danger qui sont parfois sans retour. J'ai un autre ouvrage qui est sorti qui s'appelle « L'éloge du social », histoire d'un burn-out qui traite effectivement, au travers d'exemples concrets, de l'épuisement professionnel des travailleurs sociaux.
C'était Frédéric Benahi sur RLP. Monsieur Benahi, merci beaucoup. Je sais que il est tard. Vous, auditeurs, vous aurez l'émission dans des heures honorables, on va dire. Mais nous, on a fait nocturne parce que monsieur travaille. Il nous a consacré plus d'une heure et demie durant son temps de loisir le soir. Merci, merci beaucoup. Et puis écoutez, si vous avez un nouvel ouvrage, n'hésitez pas. Vous serez la bienvenue sur notre antenne. Merci, monsieur.
Je vous remercie de votre invitation.
Je vous remercie, monsieur. Merci. Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.